le CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes toujours en direct du CELIF, le Salon des élus et des décideurs d'Île-de-France, pour s'intéresser ce matin, eh bien, aux enjeux liés à la dématérialisation, les problématiques que rencontrent les communes, puisque eh bien, la loi évolue. Demain, il y aura eh bien, une obligation. Eh bien, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme. En tout cas, toutes les communes de plus de 3500 habitants. Donc, ça fait du monde. Il faut se mettre à la page. Heureusement, il existe une solution. Mairie Urba, la solution dématérialisée pour cette prise en charge et l'instruction de toutes ces autorisations d'urbanisme. À mes côtés, pour en discuter, on est en compagnie de Laurence Van de Westin. Bonjour, Laurence.
Bonjour.
Directeur de l'urbanisme chez Mairie Urba. Et un grand témoin, on est ravi d'accueillir Olivier Stern. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes adjoint au numérique de la ville de Montreuil. Ces problématiques de numérisation n'ont plus de secret pour vous. En tout cas, vous les vivez au quotidien à Montreuil. Et on va voir justement comment anticiper sur ces problématiques qui sont notre quotidien et qui vont bien sûr être de plus en plus importantes au fil du temps. Laurence, je commence avec vous. Mairie Urba, un nouveau projet en tout cas qui répond à une réglementation, je le disais, qui évolue. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce décret qui arrive 2022? Qu'est-ce qui change?
Alors, donc là, on aborde le sujet de la loi Elan qui impose aux communes de plus de 3500 habitants de prendre en charge et d'instruire de manière dématérialisée l'ensemble des autorisations d'urbanisme. Donc c'est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Mais attendez, 1er janvier 2022, si mes calculs sont bons, c'est demain.
C'est demain.
Ça veut dire que, est-ce que les communes... Tiens, on va demander à Montreuil, on est déjà équipé, Olivier?
Alors nous, très récemment, puisqu'on est équipé depuis fin septembre.
D'accord, voilà. Donc vous êtes, une sonnette d'alarme là.
Il y a eu une sonnette d'alarme, il y a eu un marché qui a été passé, effectivement. Et puis on découvre les nouveaux outils et on est prêt avant le 1er janvier. Je ne pense pas que ce soit le cas malheureusement pour toutes les collectivités de France, mais en tout cas pour nous, ça y est.
Alors ça veut dire beaucoup d'appels d'offres en ce moment?
Alors beaucoup d'appels d'offres et manifestement beaucoup d'inquiétudes et beaucoup d'urgences sur un panel de communes qui se retrouve un peu dans le désarroi pour assurer cette obligation au 1er janvier. Et comme vous l'avez justement dit, c'est demain, ça arrive très vite et il y a une urgence du côté des collectivités.
Ouais, inquiétude, désarroi, urgence, là c'est nous brosser un tableau un petit peu noir. Qu'est-ce qui se passe, tiens, fonctionnellement pour les élus qui nous écoutent, qu'est-ce qui se passe? Là je suis maire d'une commune, voilà, moyenne, petite, mais 3500, on y arrive vite. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas justement les outils? Comment je vais faire? Parce qu'il y a aussi la solution, bien évidemment, mais comme tout logiciel, on sait, il y a une prise en main nécessaire. On ne devient pas expert d'une solution qui est proposée du jour au lendemain.
Oui, alors tout dépend de la solution qui est proposée. Nous, chez Mairie Urba, on a la chance d'avoir une vraie visibilité sur le territoire national et notamment en matière de compétences en urbanisme. Et donc, on a pris le parti très tôt de développer une solution avec une interface très intuitive et très ludique. Et on a également un apport en technologie qu'on a nommé pré-instruction qui va permettre aux petites collectivités de bénéficier de l'expertise de Mairie Urba en urbanisme, c'est-à-dire d'avoir des éléments de réponse en urbanisme qui sont pré-traités, qui ne demeurent uniquement une validation de l'opérateur. Donc il y a des difficultés, mais nous, en tant qu'éditeur de solutions, on a vraiment pris le parti d'avoir quelque chose de très ludique et de très facile à prendre en main. Mais bien évidemment, par exemple dans les appels d'offres auxquels nous répondons, on a toujours une demande de formation sur ces outils-là que, bien entendu, nous assurons.
C'est le cas, Olivier Stern, à Montreuil ou ailleurs, vous le vivez. Cette numérisation, elle est dans notre quotidien de citoyens. Ça va très vite, on est tous devenus pratiquement des experts du digital, surtout avec la crise sanitaire, encore plus. Au sein des administrations, est-ce que c'est le cas aussi?
Oui, bien sûr, ça demande un accompagnement évidemment au changement. De toute façon, ces technologies-là, elles n'ont de sens que si elles permettent d'émanciper, d'une certaine manière, d'être émancipatrices pour les usagers. Entendons les usagers de ces nouveaux outils. Ces outils métiers doivent être aussi interfacés avec la pluralité des outils qui peuvent être mis à disposition des utilisateurs. Je pense par exemple au service d'information géographique, puisqu'on est sur des instructions qui sont géolocalisées. Et donc ça demande, parce qu'on multiplie les outils et les démarches de dématérialisation aussi, de travailler sur les questions d'urbanisation de nos systèmes d'information et de pouvoir accompagner nos équipes dans la prise en main de ces outils qui doivent alléger les instructions, alléger le travail et pas être un nouveau poids dans le quotidien de l'instruction pour nos agents. Donc il y a une dimension importante dans la formation et l'accompagnement au changement pour nos équipes, pour que cet outil soit au service d'une émancipation plutôt qu'une nouvelle chose à apprendre dans leur métier.
Oui, parce qu'il peut y avoir aussi une résistance au changement, c'est-à-dire, tiens, un nouvel outil, il faut de nouveau apprendre quelque chose, on avait l'habitude de faire, peut-être même avec du papier, bon voilà, mais au moins la procédure était connue. Là, c'est pour ça que vous avez insisté, Laurence, sur le côté, j'allais presque dire ludique, on ne peut pas parler de gamification, mais en tout cas, l'interface, c'est vrai, est pensée pour l'utilisateur final.
C'est ça, tout à fait. C'est relativement simple, c'est un système de questions-réponses avec un ensemble d'outils, notamment, comme le précise Olivier, c'est un système d'information géographique avec toute une cartothèque, avec des localisations au terrain automatiques. Donc le but n'est pas de remplacer le travail de l'instructeur, mais de l'outiller de manière numérique et de bénéficier de la puissance informatique dans leur quotidien, dans les services d'urbanisme réglementaire.
Alors vous êtes spécialiste justement de l'urbanisme, c'est pas évident à faire parce qu'il y a une compétence métier, mais ensuite il faut coder tout ça, il faut le rendre aussi ergonomique
et évolutif
parce qu'on peut se dire bah tiens c'est peut-être une première étape, mais demain le législateur va vous demander de faire plus, faire mieux, de passer encore plus d'informations à travers ces outils.
Tout à fait. Là, déjà, il y a plusieurs points. Il y a les évolutions réglementaires qui sont, on va dire, propres à l'urbanisme. Le code de l'urbanisme évolue très régulièrement. Les formulaires de demande, les fameux CERFA, dont il y en a un certain nombre, évoluent régulièrement. La législation évolue régulièrement. Donc, on se doit, bien entendu, d'avoir une solution qui est évolutive à ce niveau-là. Et également, technique. Les besoins en mairie peuvent être divers et variés. Et on se doit d'avoir une solution qui est souple en matière de développement, qui puisse évoluer en fonction des besoins des services instructeurs des mairies.
Mmh. Cette volonté justement d'avoir tout numérisé pour les délivrances d'une autorisation d'urbanisme, Olivier Stern, ça correspond à quoi? C'est pour harmoniser, c'est pour qu'il y ait moins d'erreurs. Pourquoi le législateur dans la loi d'élan a décidé d'inscrire ceci?
Bon, il y a sûrement une question d'harmonisation, il y a aussi une question de transparence de l'action publique. Hein. Je pense que si on est honnête, le fait de passer au numérique va permettre aussi d'avoir un meilleur archivage, de pouvoir aussi rendre compte à travers la mise à disposition publique d'un certain nombre de données. Sur les questions d'open data, il y a aussi un certain nombre d'obligations qu'ont les collectivités de rendre une partie des données qui sont en leur possession accessibles au public, et on est encore assez loin du compte sur bien des domaines. Et donc de ce point de vue-là, je crois que la loi aussi permet de ce que la numérisation de ces documents permette d'être mise à disposition du public. Et puis, encore une fois, mais c'est le cas pour à peu près tous les sujets, je pense par exemple aux questions scolaires, quand on est amené à payer sa cantine ou à faire son inscription, là encore, on passe du papier au numérique. Il y a beaucoup de collectivités qui sont encore au début de cette démarche, d'autres qui sont plus avancées, donc c'est aussi intéressant que les collectivités entre elles puissent partager leurs expériences sur ces démarches-là.
Oui. Les autorisations d'urbanisme, est-ce qu'il y a une règle des 80-20? Quelles sont les autorisations les plus courante, on va dire.
Globalement, dans le jargon de l'urbanisme, on va scinder les autorisations d'urbanisme en trois familles. On va avoir les certificats d'urbanisme, qui à proprement parler, dans les faits, est un document d'information plus qu'une autorisation. On va avoir les déclarations préalables et les demandes d'autorisation sous forme de permis de construire.
Déclaration préalable de travaux, bien évidemment.
Voilà, donc bien entendu, là, on a, je pense, au niveau des mairies, des fortes demandes au niveau des permis de construire, notamment tout ce qu'on appelle les PCMI, les permis de construire de maisons individuelles, qui, je pense, représentent un bon 70% de toutes les autorisations d'urbanisme délivrées sur le territoire.
Donc tout ça passera par le même filtre, finalement, de manière harmonisée, de manière aussi transparente, c'est-à-dire que tout un chacun pourra vérifier ce qui a été fait dans sa mairie?
Tout à fait. Alors, en matière d'urbanisme, il y a énormément d'échanges courriers actuellement. La législation est faite pour faire évoluer ces choses-là. Beaucoup de notifications qui sont envoyées, des récépissés d'accusés de réception, des notifications de délais d'instruction, des demandes de pièces complémentaires pour les dossiers incomplets. Et ça, très nettement, l'outil informatique, notamment notre solution, met à disposition des outils qui permettent de lisser ces demandes, de lisser ces délais, et surtout que tout se fasse de manière transparente et instantanée. Ça permet, il y a un double enjeu, que ce soit pour le pétitionnaire, le demandeur, qui va être guidé tout au long de sa procédure et qui va ne pas perdre de temps finalement à travailler sur une mauvaise demande ou un mauvais format de demande. Il peut avoir un contrôle de complétude du dossier, donc s'assurer que son dossier est bien complet avant l'envoi dématérialisé en mairie. Et le deuxième enjeu du côté instructeur, tout simplement, ça permet de concentrer son temps, le temps de travail effectif sur des tâches à valeur ajoutée, comme le contrôle de conformité d'un projet, et pas utiliser son temps à envoyer des courriers tout à fait classiques. Là, aujourd'hui, l'outil informatique en 2021 et 2022 demain permet de vraiment lisser tous ces délais et toutes ces actions.
Donc, économie à terme, on espère, de temps.
Alors, moi, j'aime bien l'exemple qui est pris, c'est-à-dire de libérer du temps de travail d'agents qui étaient dévolus à des tâches à faible valeur ajoutée pour les concentrer sur, par exemple, de l'accompagnement humain aussi de dossiers. C'est-à-dire que ces outils numériques, ils n'ont pas vocation à remplacer finalement des hommes qui ont des compétences fortes et techniques sur des dossiers à des tâches qui pourraient être réalisées par des machines, d'une certaine manière, mais à mettre ces machines-là au service de la procédure pour permettre à ce que le temps de travail de ces agents-là, de ces techniciens, de ces ingénieurs, ils puissent être mis au service de la qualité de l'accompagnement des usagers demandeurs. Donc là, voilà, on est sur un bon exemple d'une bonne utilisation d'un outil informatique qui a cette vocation-là, qui n'est pas de remplacer toute la chaîne d'instruction. Malheureusement, ce ne serait pas souhaitable aujourd'hui.
Ouais, je parlais tout à l'heure d'apprendre un nouveau logiciel. C'est vrai qu'il faut accepter de perdre peut-être un peu de temps en formation pour ensuite en gagner, parce que évidemment, on va aussi supprimer du papier. Il y a un enjeu, bien sûr.
Oui, le calcul se fait sur le long terme. Sur le long terme, il y a énormément d'avantages. Et puis, sur des solutions comme la nôtre, comme je disais précédemment, ça n'a pas vocation à remplacer le travail de l'instructeur. C'est une suite d'outils. Le fond de l'opération pour un instructeur reste le même. Un projet doit être contrôlé, sa conformité doit être contrôlée vis-à-vis des servitudes d'urbanisme, vis-à-vis des servitudes d'utilité publique, vis-à-vis des législations connexes. La machine ne fera pas le contrôle, mais apportera tous les outils nécessaires afin de fluidifier ce travail et permettre en fait à l'instructeur d'occuper son temps sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme le précisait Olivier, effectivement sur l'accompagnement, notamment des particuliers qui peuvent avoir beaucoup de questions sur ces sujets-là. Et donc l'outil informatique vraiment va aider à fluidifier ces choses-là.
Ah, c'est intéressant. Alors, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. On se demande si peut-être dans la version 2, on pourra rajouter une surcouche à se dire, puisqu'on a les infos, énormément de data chez Mairie Urbain ou ailleurs qui remontent, croiser cette donnée et dire, sur tel permis, ça, automatiquement, il y a déjà un go, no go qui peut se faire. Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui pourrait booster l'outil demain?
Alors actuellement, nous, on n'utilise pas l'intelligence artificielle. Effectivement, ça ouvre certaines portes, mais encore une fois, on a des projets d'une certaine complexité avec, ça peut être le cas avec un environnement dérogatoire. Ça peut être très compliqué à la machine actuellement de traiter ces choses-là. Ceci étant dit, on se sert des utilisateurs, notamment des informations qu'ils saisissent au travers du CERFA dématérialisé, par exemple, pour déclencher des opérations dans le logiciel. Donc ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est celle de l'utilisateur. Mais du coup, l'outil va réagir en fonction des informations saisies pour orienter l'instructeur vers les tâches essentielles de son instruction et éliminer tout ce qui n'est pas concerné, tout simplement.
Donc, il y a quand même une assistance fournie. On est guidé quelque part.
Aujourd'hui, on a l'intelligence de nos développeurs et la connaissance des technologies informatiques qui nous permet d'amener de très beaux outils. Mais c'est à partir de saisies humaines. Demain, peut-être qu'on pourra encore fluidifier les choses avec des éléments qui sont déterminés par une intelligence artificielle. On n'y est pas encore.
Olivier Stern, vous y croyez justement à ces développements, parce qu'on parle beaucoup de données, de métadonnées, de lacs de données. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et l'urbanisme, il y en a énormément. C'est collecté, c'est trié. Et du coup, ça peut aussi ouvrir un nouveau champ de possible pour, justement, comme vous disiez, avoir des métiers à valeur ajoutée.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les données s'accumulent de plus en plus. Alors, on pense, par exemple, quand on installe des nouveaux candélabres dans la rue, maintenant, ils sont équipés de capteurs. On a les données produites au titre des permis de construire.
À quoi ça sert, ces capteurs, là, justement, dans les...
Alors voilà, en
dans
tout
les
cas,
abribus, dans les candélabres, dans les...
Par exemple, on peut se dire que lorsque la circulation est plus faible, on pourrait réduire la luminosité de la voirie et l'augmenter. Donc ça sert aussi à faire des économies. Ça sert peut-être aussi à avoir des politiques de maintenance qui sont au plus près pour régler les pannes éventuelles. Donc ça a tout un tas de vertus, évidemment. Mais donc, il y a beaucoup de données qui n'existaient pas et qui sont aujourd'hui à disposition des collectivités. C'est une richesse. Et donc, il y a une stratégie à avoir, publique, de souveraineté aussi par rapport à ces données, puisque en général, elles sont le résultat d'outils qui sont développés par des sociétés privées. Donc, il y a un enjeu aussi de pouvoir faire parler ces données, les rendre publiques pour certaines, mais aussi être mise au service de l'amélioration de l'efficience du service public, de l'évaluation des politiques publiques, des enjeux de transparence. Et donc là, il y a un travail, il y a une terra incognita, au fond, devant nous, sur la meilleure utilisation stratégique de ces données. Les entreprises ont peut-être un petit peu d'avance sur les villes, les territoires, sur ces questions-là. Mais en tout cas, il y a un travail devant nous qui est très important, comme je le disais, sur la question de la souveraineté des données stratégiques publiques. Et puis leur bonne utilisation à des fins d'efficience du service public, d'évaluation de nos politiques publiques, et puis d'aide, d'outils à la décision, de création d'observatoires pour rendre compte de notre action et nous améliorer dans son efficacité.
L'ensemble justement de ces données, Laurence Van der Westin, elle va être évidemment sécurisée. On disait tout à l'heure, bien sûr que ça pourrait être contrôlé, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi de protéger. Une fois que cette donnée elle est affinée, elle est traitée, elle a une certaine valeur.
Oui, bien sûr. Je rejoins tout à fait les propos d'Olivier. Nous-mêmes, Mairie Urbain, on est acteurs de cette approche. Aujourd'hui, les documents locaux d'urbanisme sont des documents administratifs qui sont accessibles à tout citoyen ou entreprise qui en font la demande. Et nous utilisons ces données, nous les collectons.
On scannez pour parler facilement. En tout cas, vous collectez toute cette donnée, vous la numérisez.
C'est ça,
vos bases de données.
On a une mise en forme, on exploite tout à fait la donnée qui est recueillie par les services publics en collectivité territoriale. Après, on a une mise en forme par nos opérateurs en bureau d'études, donc il y a toujours un travail humain derrière l'efficacité de l'outil informatique, notamment en termes de géomapping et de calibrage de ces informations, et elles sont stockées sur des serveurs sécurisés.
Tout à fait. Alors, travail humain, on le rappelle, parce qu'il y a de nombreuses personnes, là, pour le coup, physiques, ce ne sont pas des robots qui travaillent,
oui,
à cette
fait.
Donnée.
Tout à fait. De toute façon, que ce soit dans notre bureau d'études ou en collectivité territoriale, le travail humain, aujourd'hui, est indispensable, notamment en termes d'interprétation.
Combien de personnes chez Mairie Urbain ?
60 personnes.
60 personnes.
On a un bureau d'études de 60 urbanistes qui travaillent sur l'ensemble du territoire national et qui vont traiter également les données des mairies qui sont partenaires de Mairie Urbain.
Et puis la sécurité, bien évidemment, on entend tous les jours des brèches informatiques, même dans les plus grands services bien connus, nos plateformes ou nos réseaux sociaux. Comment on assure la sécurité, là aussi, Laurence Van der Westin ?
On a plusieurs verrouillages. De toute façon, nous, en termes d'opérateurs, on a des blocages sur les adresses IP. Donc, la base de données, si vous voulez, est accessible que depuis les locaux et que depuis notre service.
D'accord. Donc, évidemment, clé, mot de passe, sécurité.
Clé, mot de passe, et puis après, les serveurs sont externalisés, sont pas dans nos locaux. Donc après, on a des sécurités, bien évidemment.
À condition, évidemment, de ne pas laisser traîner le password, le post-it collé sous le bureau.
Le login admin password, il faut éviter, tant qu'à faire.
Voilà, 1, 2, 3, 4. Mais je crois que c'est la majorité, en plus, c'est le pire. Ça se fait là aussi. Comment on renforce ? Parce que c'est vrai que c'est un enjeu
aussi
pour vous.
Mais ce que vous dites, c'est un enjeu extrêmement important. Et d'ailleurs, on voit que la valeur est en train de se concentrer. Enfin, quand on parle de valeur ajoutée dans la donnée produite ou récoltée dans les collectivités, évidemment, il y a un enjeu aussi pour ceux qui souhaitent se l'accaparer, de venir forcer nos systèmes d'information. Donc c'est une guerre qui n'est jamais totalement aboutie, évidemment. Et donc on a des exemples récurrents, y compris de grandes sociétés qui pourtant sont censées être à la proue en matière de sécurité informatique, qui se font voler des données sensibles. Et donc c'est un enjeu important pour nous, et qui est d'autant plus important que les données qui sont aujourd'hui à notre disposition sont stratégiques pour nos collectivités.
Ouais. Sur des certificats d'urbanisme, bon, y a pas, c'est peut-être pas hyper stratégique, mais quand même, c'est important de bien verrouiller, de bien sécuriser.
Si vous voulez, c'est, les données qu'on utilise sont globalement des données qui sont publiques et accessibles. Mmh. C'est surtout l'ensemble des données que nous stockons sur l'échelle nationale qui peut avoir un intérêt. Prendre une base de données aussi complète que la nôtre, qui représente un temps de travail et un nombre de personnes à travailler dessus qui est vraiment, vraiment conséquent.
Des milliers d'heures.
Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est un enjeu pour nous aussi, en tant qu'opérateur privé, de protéger cette base de données. Mmh. Tout à fait.
Voilà, en tout cas, cette transition digitale des autorisations d'urbanisme est en marche, hein, 1er janvier, donc c'est demain. Est-ce qu'il y aura d'autres... des add-ons, des versions différentes qui vont enrichir le
logiciel est évolutif, a été conçu pour évoluer.
Je dis logiciel, mais c'est une solution SaaS.
Alors, c'est un web service, hein, c'est accessible en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, qui a un des avantages d'une solution, n'importe quel élu, notamment de petites communes qui ne sont pas forcément toujours en mairie, ont la capacité, même sur tablette, de répondre à des demandes de certificat d'urbanisme ou de permis.
Ma petite parenthèse, hein, par rapport au logiciel qu'on installe, voilà, disquette,
c'est,
ça parlera
oui,
à
effectivement.
Là, on est dans le cloud finalement, accès sur Internet et on a accès au produit.
C'est très demandé. Alors nous qui baignons dans le milieu, ça nous paraît évident, mais c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas du tout dans le logiciel qui est installé sur un poste avec une licence fixe. On est sur un web service avec des clés d'utilisateurs qui sont gérées par la mairie. Vous avez des personnels qui sont aptes à instruire et des personnes, notamment des élus, qui ont les prérogatives en matière de signature, et tout ceci est géré par la collectivité directement. Donc c'est plus une attribution d'utilisateur sur le web service. Mais effectivement, c'est un logiciel métier, mais accessible en ligne. Juste une connexion Internet suffit.
Olivier Stern, la mairie du maire général en 2021-2022, elle n'a plus rien à voir à même ce qu'il y avait il y a 10 ans. On est complètement dans le digital, là aussi, sur ces métiers, sur ces activités.
Alors, je ne voudrais pas vous faire croire non plus qu'on a abouti totalement la transformation numérique de nos collectivités. Il reste beaucoup de travail à faire.
Il y a eu une accélération. Tiens, justement, je parlais de la crise sanitaire. Vous avez vu comme les entreprises, par exemple, sont tous mis dans la visio. Certaines entreprises pensaient qu'on n'allait jamais y arriver. Les agents immobiliers, les notaires, ils s'y sont mis. Est-ce qu'on a la même évolution dans les collectivités locales?
Oui, d'ailleurs, le télétravail s'est beaucoup développé, en particulier dans les collectivités territoriales. Elle a été aussi la preuve pour certains qu'on pouvait continuer à maintenir un périmètre de service public dans des situations de télétravail. Donc ça change les habitudes de travail. Je pense qu'effectivement, ça a conduit les villes à s'équiper d'outils numériques, de salles équipées de visioconférences par exemple, mais aussi de réfléchir à des outils en mobilité, hein, pour certains outils métiers. Donc c'était l'exemple que vous disiez, d'être capacité avec sa tablette, que ce soit sur le terrain ou en mobilité, de pouvoir continuer son travail. Donc bien sûr que ça a eu un impact et que les villes, dans les nouveaux outils qu'elles acquièrent, prennent en compte de manière forte ces problématiques-là maintenant.
Et pour faire le lien avec ce qu'on disait, c'est-à-dire web service plutôt que logiciel installé, c'est-à-dire que physiquement, on n'a plus besoin de se déplacer à la mairie, là où était le logiciel, mais on peut finalement, en télétravail, continuer à travailler.
Disons qu'il y a un chemin qui est global en France, hein, ou plus largement, pour que la question de l'administration des systèmes d'information, c'est-à-dire d'installer des outils métiers, des logiciels, et donc d'avoir la maintenance aussi de ces outils-là, la montée en version, est en train petit à petit de passer des systèmes d'information des collectivités, des villes, vers des solutions SaaS ou sur le cloud, qui posent des avantages, mais aussi qui a un certain nombre d'inconvénients en termes d'urbanisation des systèmes d'information. Donc là, il y a la question aussi pour les villes d'être en capacité d'interagir avec les données produites, hein, et de pouvoir ensuite récupérer ces données pour les faire parler entre elles. Hein, parce qu'on peut avoir un très bon système intégré, s'agissant par exemple des instructions de permis de construire, mais si on souhaite faire parler ces documents d'urbanisme, par exemple, ou les données produites, et les utiliser à d'autres fins pour produire, je ne sais pas moi, un observatoire qui met en jeu plusieurs types de jeux de données. Donc là, c'est important que les villes puissent quand même garder une forme de souveraineté sur les données qui sont produites, y compris lorsqu'elles sont produites en dehors des sites dont elles ont la gestion en interne.
C'est intégré justement, Laurence Van Westin, dans Mairie Urbaine, la solution,
le fait de
pouvoir interfacer avec d'autres
Tout à fait. On a beaucoup de collectivités qui nous demandent pas mal de particularités. On a notamment dernièrement une demande pour installer une solution de consultation de cartographie de documents en borne publique. Et bien évidemment, on a pas mal de demandes très particulières pour des passerelles vers d'autres logiciels, vers une réutilisation des données, et notamment en matière d'urbanisme, et ça c'est obligatoire. On a un archivage à effectuer. Et donc effectivement, on a beaucoup de demandes et on a une solution à ce niveau-là pour que les données soient exploitées et mises en exergue, mises en perspective avec d'autres données qui pourraient effectivement porter statistiques ou autres, donner une meilleure visibilité de l'action publique.
D'accord. Ça veut dire que le système finalement n'est pas clos, n'est pas fermé,
pas du tout.
Il est ouvert, système d'API peut-être, ça parlera
au plus
tech, hein, c'est-à-dire des systèmes qui communiquent entre eux, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui.
On parle d'interopérabilité aujourd'hui, et effectivement c'est un enjeu, notamment pour les collectivités. Ouais.
Mm-hmm. Tiens, on va parler aussi, pour ceux, encore une fois, qui prennent leurs décisions et qui nous écoutent, du business model ou du modèle économique. Donc, on parlait tout à l'heure, logiciel, ça c'était une licence qu'on payait annuellement. Là, on est sur un web service, c'est-à-dire en paiement à l'utilisateur, à l'utilisation.
C'est sous forme de licence, de manière classique. Alors, ça dépend quel type d'appel d'offres nous répondons. Bien entendu, il y a un coût sur cette licence, mais qui reste très raisonnable en fonction de... À la vue des bénéfices que ça peut apporter, ça reste très raisonnable, mais c'est une facturation par licence. Et d'accord. Donc après, ça dépend du type de marché qui est conclu avec les collectivités. Dernièrement, on a eu un marché en procédure adaptée pour un contrat d'un an renouvelable 3 fois.
On a une licence pour une brique et ensuite on fait son choix ou on a
on fournit une licence à la collectivité qui va derrière gérer les utilisateurs et c'est multi-poste, il peut y avoir autant d'utilisateurs que nécessaire dans la collectivité. Le prix de la licence, c'est une licence pour la commune, pour la collectivité et pas par utilisateur.
Ok, très bien. Donc ça diffère un petit peu des modèles SaaS, des fois, à l'abonnement qu'on a pour tant d'utilisateurs. On l'a bien compris. Olivier Stern, cette question elle est importante parce que, bah, évidemment, les collectivités locales doivent faire attention à leur budget. Alors, on a compris, hein, évidemment, les avantages et de toute façon, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que c'est une contrainte aussi quand le législateur lui dit, voilà, nouveau programme, c'est un coût à mettre au budget supplémentaire.
Oui, d'ailleurs, ce n'est pas exactement le même type de budget, hein, puisque quand on achète un logiciel, c'est un investissement. Hein, donc, c'est un investissement d'un logiciel qui va être amorti sur un certain nombre d'années. Donc là, ça rajoute sur le budget de fonctionnement, puisqu'on est sur une redevance d'utilisation hein, d'un outil informatique. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes en matière de budget pour les collectivités. Donc, je crois qu'il y a encore un petit peu de travail, notamment sur les outils informatiques, hein, puisque aussi les contraintes qui sont normales hein, pour les collectivités de marché public qui n'existent pas pour les entreprises, elles posent des questions en matière d'urbanisation des systèmes d'information, évidemment, puisqu'on ne choisit pas un outil qui viendrait s'intégrer dans un paysage, dans un univers qui est déjà existant, mais qui doit répondre à un certain nombre de critères. Donc je pense que sur les questions de marché public, de budget, etc., sur les questions d'outils informatiques, il y a encore un petit peu de travail à faire hein, avec les pouvoirs publics pour adapter un petit peu les choses et que ce soit le plus efficace possible pour les collectivités.
Ouais, il faut bien sûr en prendre compte. On imagine très différente pour une mairie qui fait 4 000 administrés avec une grande commune, une grande métropole.
Oui, tout à fait. Il y a un accompagnement. Par exemple, dans le cadre de marché public, on a souvent des cahiers, des clauses techniques particulières, des CSTP qui sont des pièces obligatoires dans les marchés publics qui représentent les doléances techniques, les besoins techniques de la collectivité. Et bien souvent, effectivement, on se rend compte que la mairie est au fait de son obligation, de son besoin, mais ne l'exprime pas forcément de manière très claire. Et effectivement, il y a un vrai accompagnement sur ce sujet-là. Les marchés publics, ça date pas d'hier, hein, on connaît tous la chose. Maintenant, c'est vrai que sur des produits informatiques et de nouvelles technologies telles que le nôtre, effectivement, il y a un accompagnement sur la prise de demande au niveau des collectivités à effectuer.
Bien sûr. Donc 1er janvier 2022, hein, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique ces demandes d'autorisation d'urbanisme. On l'a compris. Certaines sont en avance. Bravo Montreuil, c'est votre cas. Pour les autres, il faut se mettre à la page. Bon, il y a 36 000 communes en France. Bon, alors, toutes ne sont pas supérieures à 3 500, mais ça ferait quand même vous avez évalué le marché finalement dans son ensemble ?
Pour nous, le marché, c'est l'ensemble du territoire national. Donc, bien entendu, les mairies qui sont soumises à cette obligation sont les premières concernées, on va dire les premières demandeurs. Mais la solution, les enjeux, si vous voulez, ne s'arrêtent pas à la taille de la commune. La taille de la commune, c'est... On va évoquer un certain volume de demandes à traiter. Maintenant, les enjeux ne s'arrêtent pas aux communes de plus de 3500 habitants. Vous avez notamment des toutes petites communes qui n'ont pas forcément les compétences en interne ni le service d'urbanisme que peut avoir par exemple Montreuil et qui ont besoin de s'aider, de s'équiper de ces outils pour utiliser leur temps de manière efficiente, tout simplement. Donc nous, en termes de marché, on ne s'arrête pas aux communes de plus de 3500 habitants. On propose notre solution sur l'ensemble du territoire national à toutes les communes qui en auraient besoin.
Olivier Stern, bon, vous avez pris un peu d'avance, mais c'est vrai que ça peut être un sujet hein, pour des, on le disait, des communes plus petites pour s'équiper, pour former leur personnel, déjà pour avoir le personnel compétent.
Oui, enfin, c'est des enjeux de mutualisation aussi, hein, des compétences, des ressources. Alors sur les questions d'urbanisme, à Montreuil, on est sur une gestion intercommunale, alors pas sur l'instruction, on a gardé nos équipes municipales pour instruire, mais je pense que là, on est sur un intérêt qu'ont les collectivités dès qu'on est sur des niveaux de complexité technique ou des logiciels à pouvoir se mettre au pot commun les compétences et acheter ensemble des solutions. Donc là, moi, je peux que encourager les plus petites collectivités à avoir ce type de démarche mutuelle collective. Et puis les plus grandes, une fois qu'elles ont un pas d'avance, à être un peu ambassadrices aussi vis-à-vis des autres territoires pour les aider à défricher ce qui marche, ce qui ne marche pas et à gagner du temps sur la méthodologie pour s'y prendre au mieux.
Mmh. La volumétrie, là, justement, ces certificats d'urbanisme ou ça prend. Il y a combien de personnes qui sont associées à un service pour une ville comme Montreuil, par exemple?
Ça, je ne pourrais pas vous répondre, malheureusement. Mais oui. Ce qui est évident, c'est qu'en termes d'accueil au public, hein, ça représente un volume horaire important. Mm-hmm. Et que la discussion entre la partie qui est consacrée par nos agents à l'accueil du public sur des choses qui pourraient être dématérialisées par rapport au temps consacré à l'instruction et donc là où il y a une forte valeur ajoutée, c'est une question qui revient souvent. Et on est très satisfait, justement, que les outils mis en place permettent de répondre de manière efficace à ce type de problématique.
Mmh. Tiens, ça fait le lien avec une autre question. Alors la plus large, c'est celle de la fracture numérique. On en parle beaucoup, on essaye constamment de la réduire. Alors évidemment, non seulement problème, j'allais dire, question de génération, quoique il y a des geeks aussi parmi les seniors, hein, évidemment, mais souvent on le voit, voilà, les anciens sont un petit peu moins au fait de tout ce qui peut se faire et ce qui peut se faire aussi pour justement à la mairie ou tous les services qu'on a. Et puis aussi, bah voilà, l'équipement, etc., classe sociale également. Comment on réduit aujourd'hui cet enjeu de fracture numérique?
Déjà, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise image. On a des jeunes qui sont très efficaces sur des jeux vidéo. On a l'impression qu'ils sont des gros cracks. Et en fait, ils ne savent pas ouvrir un document Word. Hein. On se rend compte beaucoup de ça. Et on s'en est d'autant plus rendu compte lorsque la mer s'est retirée au profit du premier confinement et qu'on a vu les rochers des inégalités de la fracture numérique au grand jour, parce qu'on a eu des familles qui ont dû permettre à l'ensemble de leurs enfants d'accéder aux outils informatiques pour l'école. Et ben, quand il y a un seul poste de travail ou zéro pour toute la famille, ça pose des difficultés.
Ouais, on a sorti les vieux téléphones, hein, du coup, les vieux smartphones qui traînaient dans les tiroirs, ça a bien servi.
Absolument. Et donc il y a des questions déjà de coût de la connexion, hein, parce que tout le monde n'est pas en capacité de payer la connexion Internet. Donc là, il y a des accompagnements qui doivent être mis en place par les collectivités pour aider les plus précaires à pouvoir accéder à des abonnements accessibles. Et puis, il y a l'équipement. Donc, c'est deux sujets. Et l'équipement, là, on voit que la fracture numérique, elle est très forte et elle dépasse simplement la question de l'utilisation. Donc, il y a ces deux sujets aussi à régler au-delà de l'accompagnement à l'utilisation des outils. Mmh. Moi, je crois que la question des bornes publiques, etc., c'est pas forcément la meilleure approche. Par contre, que dans les lieux publics, on ait des personnels qui soient mis à disposition des usagers, comme on a eu des écrivains publics qui traitaient les questions d'analphabétisme, des gens qui traitent les questions d'inélectrolisme, et qui puissent accompagner les personnes les plus éloignées des outils informatiques. Voilà, là, c'est des stratégies. Donc, c'en est une troisième qui doivent être mises en place par les collectivités pour traiter la question de la fracture numérique.
Ouais, on avait des scribes à l'époque, mais maintenant, on aura peut-être effectivement des formateurs pour vous aider à passer des choses très simples. Hein. Ça peut être les impôts aujourd'hui qui sont complètement numérisés. C'est compliqué. Je voulais faire le lien aussi avec notre sujet, c'est-à-dire la formation des personnels. Est-ce que tout le monde s'est mis à la page dans les mairies aujourd'hui, maintenant on est en capacité complètement d'intégrer tous ces outils?
Non, faut être réaliste et honnête. Il y a une conduite du changement. Je pense qu'il y a besoin de conviction. Voilà. Et moi, je crois que la conviction par l'exemple, hein, c'est-à-dire que on utilise ensemble ces outils et surtout on est dans une logique de partir des usages, hein, des agents, et de construire les solutions à partir des usages. Voilà, on a trop souvent imposé des solutions techniques un peu magiques et on a dit démerdez-vous entre guillemets avec ça. Voilà, aujourd'hui, si on part des usages et si on accompagne, par la conviction, on arrive à accompagner les gens et à entraîner avec nous les agents, y compris les plus réfractaires, à utiliser ces outils qui doivent être des outils d'émancipation.
Mmh. En tout cas, c'est aussi ce que vous avez voulu faire, hein, Laurence Vandewestine, avec cet outil Mérurba, quelque chose de UX-friendly, comme disent les développeurs, c'est-à-dire tourné vers l'utilisateur. Quelqu'un qui n'a pas forcément une énorme formation, il peut prendre en main assez rapidement l'ensemble de cet outil.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est relativement important d'avoir une solution qui est ergonomique. Et aujourd'hui, la maîtrise de ces outils est assez disparate. On a des personnes qui sont très à l'aise, d'autres un peu moins. On a des sciences aujourd'hui, que ce soit en informatique, que ce soit en communication, que ce soit en graphisme. Aujourd'hui, notre solution est interfacée de telle manière que ça reste vraiment, vraiment très accessible, même à des utilisateurs qui ne sont pas forcément très habiles avec l'outil informatique.
Bon, voilà, en tout cas, on a bien saisi, donc demain, pour la prise en charge, l'instruction des CUA, CUB, certificats d'urbanisme, c'est ça ?
C'est ça, les permis de construire.
Préalables de travaux, pardon, permis de construire, de démolir, d'aménager et les déclarations d'intention d'aliéner.
Oui, tout à fait, oui.
Hein,
oui.
C'est ça ?
Qui est un gros sujet aussi. Oui.
Eh bien, il y a une solution qui s'appelle Mérurba, il y en a d'autres, évidemment, le marché est ouvert, que le meilleur gagne. Mais en tout cas, merci d'avoir présenté cette solution, Laurence Vandewestine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'urbanisme donc chez Mérurba. Merci à Olivier Stern pour cet éclairage. Vous êtes adjoint au maire en charge du numérique à la mairie de Montreuil. Et c'était intéressant d'avoir aussi votre point de vue sur cette digitalisation, on l'a compris, qui est en marche dans les collectivités locales. Un grand merci à tous et à très bientôt.
Merci à vous. Merci.
Radio Territoria.
Le CELIF, le Salon des élus et décideurs des territoires d'Île-de-France, du 2 au 4 novembre 2021 au Paris Event Center, en partenariat avec Mairie Urba sur Radio Territoria.